Alors, nous sommes dans Pirkei Avot, Perek Hei. Nous sommes Mishnah Gimel, Perek Hei, Mishnah Gimel. Asara Nisyonot, Nitnasa, Avram Avinu, Alav Shalom. Vamad Bekulam. 10 Nisyonot. 10 épreuves. Nitnasa a été éprouvé, Avram Avinu, Alav Shalom, sur lui la paix. Pourquoi ici la Mishnah dit Alav Shalom? Sur tous les gens, on dit Alav Shalom, on pourrait dire, et on ne trouve pas dans tout Pirkei Avot, chaque fois quand on cite des Chachamim, on ne cite pas Alav Shalom. C'est sous-entendu. Même quand la Gemara cite des Nevi'im, on ne cite pas toujours Shmuel Amar, Shmuel Anevi Amar, on ne dit pas toujours Alav Shalom. Du temps en temps, c'est marqué dans Chazal le mot Alav Shalom. Pourquoi des fois oui et des fois non? On dirait que c'est. Des fois on veut souligner la tzidkout très spéciale. On veut souligner quelque chose de spécial. On dit Alav Shalom. Alors ici la Mishnah nous dit Alav Shalom sur Avraham Avinu. On dirait que c'est quelque chose de d'exceptionnel ce que la Mishnah veut nous transmettre. Alors, Asara Nissim Nitnasa Asara Nisyonot. Donc, 10 épreuves que Hashem il a fait à Avram Avinu va Amad Bekulam. Il a réussi tous. L'Hodia, ça va nous faire savoir, c'est important qu'on le sache. Pourquoi c'est important qu'on sache? Parce que Ramachibato, chez l'Avram Avinu Shalom, combien Avram il aimait Hashem, afin que les gens s'inspirent. Chaque juif est invité à s'inspirer de l'exemple d'Abraham. Ça veut dire chaque nisayon qu'un juif il peut avoir et il veut savoir réussir, j'ai réussi ou je réussis pas. Eh bien, il faut s'inspirer d'Abraham Avinu. Il avait des nisyonot, il a réussi. C'est-à-dire quoi? Il avait 10 nisyonot. C'est-à-dire quoi 10 nisyonot? Nous avons chaque jour 100 nisyonot. Et lui, il avait dans sa vie des 175 ans, il avait 10 Nisyonot. 10 Nisyonot et 175 ans partagés par 10, ça fait, c'est quoi? Chaque 17 ans, il avait Nisayon, moyennement. Bien sûr que quand on dit Nisyonot, ça veut dire le top du top de ce qui peut arriver. Qu'est-ce que c'est un Nisayon? Nous pensons, Nisayon, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de Nisyonot. Quand on regarde le Chumash, les 10 Nisyonot d'Avraham Avinu, pour saisir quel est le Nisayon, ce n'est pas du tout pashut. Premier Nisayon, quels étaient les 10 Nisyonot d'Avraham Avinu? Premier, il y en a qui disent que c'est qu'il se fait jeter dans la cour Kasdim. Il a dit non, il y a un Dieu, et il se fait jeter dans le fournaise. Ou d'autres disent, le premier c'était Lech. Après qu'Avram Avinu, il avait déjà beaucoup de monde, il a drainé déjà beaucoup de gens, il avait toute une cour, il avait sorti des gens de la Avodazara, il les a rapprochés vers les Emouna, ils suivaient Avram, et il avait déjà beaucoup de monde, et il fallait les nourrir. Et Hachem lui a dit, tu vas quitter Haran, et tu vas partir en Eretz Israël, et sur la route, d'où il va trouver de l'argent pour nourrir tous ces gens. Faut pas que son mouvement s'écroule. C'est un danger que le mouvement s'écroule, que tout le monde d'un coup, il se mette en marche dans un pays qu'on connaît pas. D'autant plus que c'était un mouvement, entre guillemets, révolutionnaire. Il n'a pas eu que des amis, que le monde entier était contre eux, et il luttait contre le monde. Et qu'à Haran, ça marchait déjà. Il a pu réussir à Haran. Maintenant, il fallait changer l'endroit. Mais le premier Nisayon, quel était le premier Nisayon d'après beaucoup? C'est se jeter dans la fournaise. Quelle est la difficulté de se jeter dans la fournaise? Nous, on s'imagine, parce que le four, ça fait mal. Quand on rentre dans le four, eh ben, ça fait mal. Combien de tours ça se mal? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, je sais pas. Eh bien, il était d'accord de souffrir pour ça. Comme ça, nous pensons que c'est ça le Nisayon. En vérité, les Nisyonot, il est beaucoup plus profond. Et tous les Nisyonot d'Abraham, il est beaucoup plus profond que le fait de souffrir pour Dieu. C'est que la question, elle se pose, si jamais Abraham Avinu, il va rentrer dans la fournaise et il va mourir, parce qu'il ne savait pas s'il va sortir vivant. Abraham Avinu ne savait pas, Hachem lui a pas dit que je vais te faire sortir, il n'a même pas parlé avec Hachem. Il n'était pas navi à cette époque. C'était une conviction profonde qu'il y a un Boré Olam, un Nimrod, c'est un imposteur qui se fait passer pour Dieu et qu'il conduit le monde vers l'abîme et il faut aller conduire le monde vers Dieu. D'accord, très bien. Alors il a décidé que moi je vais dire la vérité au monde. Mais maintenant qu'on lui demande d'aller dans la fournaise, alors quoi? S'il va mourir, je ne serai plus là. Et après, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que moi je gagne? Plutôt, qu'est-ce que Dieu gagne? Le seul homme qui dit la vérité, il disparaît. Alors le monde va continuer. Ça y est, le dictateur, il a gagné. Et le dictateur, il continue. Et le monde va continuer dans l'obscurité. La logique dit que non, que je vais mentir aujourd'hui. Je vais dire d'accord, mais c'est d'accord, je retire ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, Nimrod, il ne va pas les tuer. Ça y est, il a échappé. Une fois qu'on a échappé, qu'est-ce qui l'empêche de prendre un billet, partir loin, comme il a dit après, comme il a fait après. Il va partir loin. Et là-bas, il va recommencer. Il va recommencer à dire, mais loin de Nimrod. Maintenant, il se fait attraper par Nimrod, il faut aller loin. C'est beaucoup plus logique. D'après notre logique, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas mourir, justement. Et la vérité va être perdue. Tu veux la vérité reste. On ment une fois. On n'a qu'à dire avec la bouche, d'accord, je retire tout ce que j'ai dit. Et il a dit non, je retire pas parce que j'ai dit la vérité. Ça, c'est un phénomène. Et ce phénomène n'est pas seulement en public. Chez Avraham Avinu, peut-être toute l'histoire était en public. Et s'imaginez-nous que Nimrod, il aurait dit en privé, dis en privé que tu crois plus à ton Dieu, sinon je te tue. C'est possible que Nimrod, il a pris aussi au privé. Il a dit, écoute-moi, tu peux échapper, mais tu lui dis à moi que tu crois plus. Après, au public, tu parles plus. Après, tu fais ce que tu veux. Mais devant moi, que tu nies Dieu. Eh bien, on n'a pas le droit de nier Dieu, même en privé. Quel est le pshat? Mais qu'est-ce que ça gêne au bon Dieu? En quoi ça gêne au bon Dieu que je mens une fois, je vais sauver un homme et je vais sauver ceux qui disent la vérité? Et c'est comme ça, le dit Nili. On n'a pas le droit de faire Avodah Zara, on n'a pas le droit de nier Dieu, malgré que ça coûte la vie, et même si ça coûte la vie au seul survivant, au seul qui connaît la vérité. C'est quelque chose de très, très profond. Ça, c'est le Nisséon d'Abraham Avinu. Et c'était le Nisséon de beaucoup, beaucoup de Juifs. On demandait aux Juifs, dis que tu crois au christianisme, sinon je te brûle. Mais tu dis, tu crois, je te tue pas. Il dit, non, je dis la vérité. Je vais pas nier ma religion. Eh bien, je te torture, ça change pas. Mais c'est pas seulement question de torture, mais toi, tu n'existeras plus. Il n'y a plus ce Juif-là. C'est pas grave. Ça, c'est pas notre problème. Moi, je nie pas Dieu. C'est quelque chose de très profond et c'est comme ça qu'Abraham Avinu a commencé. Et tous les Nisyonot d'Abraham Avinu, c'est pas la simple chose parce que c'était difficile. Après, un des Nisyonot d'Abraham Avinu, c'est quoi? Qu'il est parti en Égypte. Et elle était très belle, Sarah. Abraham Avinu, il a dit, ils vont voir une belle femme, ils n'ont jamais vu ça. Et ils vont, Paro, il va la prendre. Et après, ils vont dire, c'est ma femme, elle a un mari. Eh bien, on ne peut pas prendre une femme mariée, on va tuer le mari. Donc, Sarah, tu vas dire que je suis ton frère. Et pas que Sarah, elle a dit, c'est mon frère. Abraham, elle a dit, c'est ma sœur. Ensuite, tout le monde, toute la cour d'Abraham Abinou, tout le monde a dit, oui, c'est frère et sœur, c'est frère et sœur. Bon, frères et sœurs, on peut prendre la femme et les célibataires. Très bien. Où est le Nisayon d'Abraham Avinu? Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas qu'on le tue. Mais il va se passer ici un adultère. Et il va faire un adultère par où avec elle. Et pour l'adultère, il faut donner la vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham Avinu, il cache, il dit c'est ma sœur, il laisse faire l'adultère. Non, ce n'est pas de l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle sera forcée. Parce que Paro, il va la forcer. Une femme, quand elle est forcée, n'est pas obligée de donner la vie. C'est un homme qui va donner la vie. La femme, elle est passive, elle n'est pas obligée de donner la vie. Très bien, mais c'est quand même pas très joli. C'est pas très joli. Et qu'est-ce que toute sa cour va dire? Monsieur Abraham, il est un peu méquille, il fait des coulottes. Dans Gilariot, il fait des coulottes. Spécialement au moment où sa vie est en danger. C'est une question pour tout ce qu'il enseignait. Évidemment, Abraham Avinu, d'abord, il enseignait les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et quand il enseigne les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ce qui est le plus grand Yetzirah, c'est quoi? C'est argent, c'est voler et des histoires des mœurs. Donc, quand Abraham Avinu l'a prêché année après année, il est allé faire la guerre contre les mœurs de sa génération. Alors, dans les mœurs de génération, il y a inceste, il y a bien sûr, on ne touche pas une femme mariée. Donc, Abraham, lui, nous n'arrêtait pas à presser, on ne touche pas, il fallait changer la nature de toute la région. Et maintenant, ça arrive chez lui, un danger. Ça y est, il met sa femme sur un plateau d'argent pour Paro. Mais c'est une honte pour lui, et pas seulement une honte. Tout il peut s'écrouler. Tout le système peut s'écrouler. Et Abraham Avinu dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse maintenant. Il n'y a pas de solution. Hachem me demande maintenant de risquer le tout pour le tout. Il faut que je reste en vie. Et comme ce n'est pas une avéra, je risque le tout. Et en plus, bon, il s'est appuyé que Paro, il ne va pas toucher. Il ne va pas toucher Sarah. Comment il ne va pas toucher Sarah? Sarah, elle va frapper. Elle va dire au malheur, frappe, et il a frappé. Et toute la maison de Paro est tombée malade. Gedolim. Puisque Paro il est venu, il a rendu le matin. Mais ça, c'est un S. Qu'on peut rendre malade toute la maison de Paro, c'est un S. Les gens autour d'Abraham, ils n'étaient pas si sûrs que va arriver le S. Peut-être Abraham, mais peut-être aussi il n'était pas si sûr. Il comptait sur le tzidkout de Sarah qu'on ne va pas la toucher. Tu comptes, mais ce n'est pas si sûr que ça va arriver. Entre-temps, les gens, ils peuvent te soupçonner. Tu n'es pas nickel. Et il a dit, mais non, je suis obligé de rester vivant. Alors, quand il s'agissait d'Ur Kasdim, il était en danger, il était d'accord de donner sa vie. Quand il s'agissait de Sarah, il n'était pas d'accord de donner sa vie. Ah, il faut décider. Les lois de Dieu exigent de donner la vie ou n'exigent pas de donner la vie. Une fois oui et une fois non. Et quand ça oui, il faut donner la vie. Malgré qu'après le tzaddik n'est plus là. Quand il faut pas donner la vie, il faut pas donner la vie. Il faut que le tzaddik reste vivant. Mais qui a dit à Abraham Avinu que comme ça il faut agir? Ça, probablement, il a compris de lui-même. Il a compris de lui-même, c'est comme ça qu'on est obligé d'agir. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'un goy, il est mechouyav de la mitzvah de Kiddush Hashem? Maintenant, nous avons reçu la Torah, v'nikdashti betoch b'nei Israël, il y en a halakha, il est mieux pour les juifs de mourir pour pas nier Hashem. Est-ce que ça existe pour le goy? Non? La Torah nous dit dans le Sechet, Sanhedrin, le goy, il n'est pas obligé de mourir pour pas faire Avodah Zara. Si un goy va dire à un autre goy, fais Avodah Zara, non, sinon je te tue, il a le droit de faire Avodah Zara. C'est que pour les juifs. Mais Abraham Avinu, il n'était pas juif, il n'a pas reçu la Torah. Donc il était sous la règle de goy, et le goy, il a le droit de quoi? De lui renier Dieu. Donc Abraham Avinu, il avait le droit de renier Dieu quand il était au Kasdim. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il a senti que lui, il est obligé de se comporter ici comme un juif. Il n'y avait pas juif. Mais il a senti qu'en vérité, qu'il y a quelque chose de plus que le comportement. Hachem, il demande à un goy. Il a demandé à Adam Arishon le comportement d'un goy. Il ne faut pas faire Avodah Zarah, mais en danger de mort, on a eu le droit. Mais un comportement plus élevé que ça. Ça, c'est le comportement qu'Hachem demandait après aux Juifs de faire. Et dans cette grande madriga, il faut lui mourir pour pas dire un mot contre Dieu. Et il a décidé, il faut que je me comporte comme ça. Et malgré, donc c'est une espèce de midat chassidut, mais je suis obligé maintenant de faire, je dois faire cette midat chassidut. Malgré que je suis le seul qui connaît la vérité, et bien c'est kedaï que peut-être le seul qui connaît la vérité, il meurt, mais il reste fidèle à son principe. Et ça c'est une issue très, très amoque, parce qu'il joue ici, pas qu'avec sa vie, à sa vie. Il joue avec l'humanité entière. Si lui meurt, qui me dit qu'après il y a quelqu'un qui va reprendre le flambeau? Peut-être non. Et ça, c'est un grand nisayon. La même chose pour Yitzhak Avinu quand il a fait la Akida, le dixième nisayon. Hachem, il a dit, Ki b'Yitzhak yikar el chazara. Donc, toute ta descendance, Abraham, il va passer par Yitzhak. Ismaël, ça ne passe pas par Ismaël. Ismaël, ça ne passe pas. Comme ça, Hachem lui a dit. Il a prié pour Ismaël, il a dit, je vais faire un grand peuple. Mais Yitzhak, Yikar et le Hazara, toutes les promesses du peuple élu de Torah, ça vient de Yitzhak. Maintenant, Hachem lui demande que Yitzhak, tu vas les égorger. Alors, tout il va tomber à l'eau. Tout le projet va tomber à l'eau. Et Abraham lui a dit, je suis obligé de faire, je le fais. Ça, c'est un grand nisayon. Là-bas aussi, il y a un autre pshat, c'est le nisayon d'Akeda, c'est parce qu'en vérité, la nevoua, c'est quelque chose que si le navi, il veut tordre sa conscience, il pourrait interpréter qu'il se trompait dans sa nevoua. Le Satan, là-bas, il dit Abraham Avinu. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, on n'a pas le droit de tuer. Donc, ce n'est pas possible qu'Hachem te demande de tuer ton fils. Donc, s'il te le demande, ce n'est pas Hachem, c'est le Satan qui demande. Le Satan, il a dit à Abraham Avinu, c'est moi qui t'a dit de tuer ton fils, mais ce n'est pas Hachem. Et si le Navi n'est pas pur, à ce moment-là, il peut se tromper. Et Abraham Avinu, il aurait pu dire, et peut-être ce n'est pas Hachem qui m'a dit. Mais il a dit non, mais c'est lui Hachem qui m'a dit. C'est un essayant très profond que si l'homme, il dit non, c'est ça la volonté d'Hachem ou c'est pas ça la volonté d'Hachem. Et tous les Nisayonot, un des Nisayon, il avait renvoyé Ishmaël. Quand il renvoie Ishmaël, c'est quelque chose de terrible parce qu'Hachem, il a dit, je vais lui faire de lui un grand peuple. Mais ça veut dire quoi faire un grand peuple? Lui Ishmaël, Yichye Lefanecha. D'après Rashi, Yichye Lefanecha, ça veut dire qu'il sera un tzaddik. Ishmaël, après, il est un tzaddik. C'est-à-dire, il va faire des bonnes choses. D'ailleurs, Abraham Avinu, à la fin de sa vie, il se mariait encore une fois avec Keturah. Il a encore 6 enfants, malgré qu'il savait qu'Yitzhak sera le tzaddik. Alors, si tu sais qu'Yitzhak sera le tzaddik, pourquoi tu as besoin encore 6 enfants? Parce que ces enfants vont aussi aider à la Emouna dans le monde. Ils vont aider pour qu'Yitzhak ne sera pas le seul croyant en un Dieu. Donc, il y a d'autres croyants en Dieu. Il a encore 6 enfants qui ont créé des grands peuples qui parlent qu'il y a un Dieu au monde. Donc, c'est Ishmaël Vadaï, c'est quelqu'un de très important. Et maintenant, il faut que je le renvoie. Et si je le renvoie, il va se fâcher avec moi. Et il va se fâcher avec Yitzhak. Et il risque de vouloir faire du mal à Yitzhak après. Étant donné qu'il se fait renvoyer comme un malpropre à Hagar à Ishmaël. Les conséquences dramatiques. Et il a dit, non, je suis obligé de faire. Il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre. Ça, c'est les Nisyonot. Esser Nisyonot. Là, il avait des dizaines, des milliers de Nisyonot. Mais il y a plus grand, et plus grand, et plus grand. Et les tops de Nisyonot, c'était ces Esser Nisyonot. Maintenant, tout ce père commence à parler des 10. Dit, avec 10 paroles, Dieu a créé le monde. Et après, on nous dit 10 générations jusqu'à Noé, 10 générations jusqu'à Abraham. Après, on dit Abraham, il avait 10 Nisyonot. Ce n'est pas un jeu de mots. Bien sûr, les choses sont liées. On devrait peut-être faire une étude pour lier la première parole d'Hachem dans Maaseh Bereshit avec la première génération, avec le premier nisyon d'Abraham, après la deuxième parole d'Hachem au Hamatan Torah et la deuxième nisyon d'Abraham. Sûrement, ça marche. Mais sans définir maintenant comment le 1, 2, 3, 4, comment tous ceux qui sont marqués dans le Mishnah, ils sont tous liés, tous les 1 après, à Saranissim en Égypte. Et sans Nisyonot que les Juifs ils avaient dans le désert, les 10 miracles qui étaient dans Beth Amikdash, tout ça, ils sont liés, le 1 avec le 1, le 2 et le 2. Mais sans faire cette étude, le fait que le Tanakh insiste sur le fait qu'avec 10 choses, Dieu il a créé le monde, ça veut dire qu'il existe une entité de 10. Quand c'est le 10, c'est la Shleimut, un minyan, pour que la Shrina et les Shora, quand on fait une tefila, il faut 10 Juifs. 10 juifs, la Shrina les Shora. 9, on ne peut pas dire Devarim dire Kadosh, 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 Hashem Tzvakot, Baruchu, Amen et Shmirabah, il faut 10. La Shrina et les Shora, quand il y a 10 personnes, il y a un phénomène, 10, c'est la Shlemut. La création du monde a été créée avec un Giloui d'Hashem de 10 paroles. Maintenant, on nous dit, à son Nisyonot, il avait Avraham Avinu. Ça veut dire, ces 10 Nisyonot, ils ont fait qu'Avraham Avinu, il est devenu le tzaddik. Il a bishleimut, il était yotze, il a réussi le Nisyon de 10, il est devenu le tzaddik. 9, ça n'aurait pas marché. Le pasuk dit pour la Akeda, atayadati, maintenant ça se dévoilait que tu es réel kim. Mais il avait déjà 9 avant. 9 n'est pas 10. Et tant qu'on n'a pas 10, ça n'est pas prouvé que tu es Elohim. Le 10e, il est important. Et ça, c'est comme 10 générations d'Adam à Noé. Le 10e, celui qui a sauvé le monde. Après 10 générations d'Abraham Avinu, c'est le 10e, c'est ça qui fait que ça réussit. Le 10e Nisayon, c'est Abraham Avinu, il a réussi. Ça veut dire c'est le top des top de Nisayon, maintenant c'est la Shleimut. Ça, c'est. Ah, ici, on dit Alav HaShalom. Il y a deux fois sur Asara Nissim, maintenant c'est Avraham Avinu, Alav HaShalom. Bamad Bekulam, l'audit à Kama Chibatosh, Avraham Avinu, Alav HaShalom. Sur lui, la paix. La paix, c'est la perfection. La paix, c'est Shleimut. C'est entier. Avraham Avinu, il est devenu entier et chaque juif, il doit s'inspirer. Audit à Kama Chibato, pour qu'il s'inspire les juifs. Et Avraham Avinu, nous avons eu un grand-père, un patriarche, qui était Shalem dans tout. Essaye toi aussi d'imiter cet Avraham Avinu. Asara, Nissim Naasu la avotenu b'Mitzrayim. 10 miracles ont été faits pour nos parents en Égypte. Quels sont les 10 miracles qui ont été faits à nos parents en Égypte? C'est d'être sauvés des Essamakot. Les Essamakot que les Égyptiens ils ont reçus. Les Juifs n'ont pas reçu, c'est un immense miracle, que la grêle tombe que sur les Égyptiens, il tombe pas sur les Juifs, que la peste n'attrape que les animaux égyptiens et pas les animaux des Juifs. Comment le virus, le, je sais pas qu'est-ce que c'est le microbe, je sais pas qu'est-ce que c'est cette peste, comment lui, il reconnaît qu'est-ce qu'il est un animal égyptien et qu'est-ce que c'est un animal juif, comment le virus il sait, comment comment la bactérie, elle sait? C'est qu'Hachem, il envoie ici et pas ici. C'est un immense miracle que l'Égyptien est du Rocher et le Juif, il a dehors. Que l'Égyptien, il boit du sang et les Juifs, chez le Juif, c'est de l'eau. Et chez l'Égyptien, et dans le même verre. Dans le même verre, l'Égyptien, il boit par une paille, c'est du sang. Et le Juif, il boit, c'est de l'eau. Les immenses miracles qui sont arrivés. Asara nisim la avotenu b'Mitzrayim. Vasara alayam, il y avait 10 miracles dans la mer. Il y avait 12 routes que la terre elle était sèche, que les murs étaient durs, ils étaient transparents. La lumière de Amoud Esh a éclairé. Chacun il a pu voir les 12 shvatim traversés. C'était comme des comme de cristal, les murs. Ils ont pu boire l'eau sans qu'il y avait du sel dedans. Il y avait un plafond au-dessus dans ce tunnel. Et le tunnel, il était rond. Ça veut dire, sur la ronde, côté qu'ils sont rentrés, ils ont sorti. Ils n'ont pas traversé et Yamsouf d'un côté à l'autre côté. Quel est le maître le pshat? Pourquoi Hachem les a fait rentrer et sortir du même côté? Pourquoi il ne les a pas fait traverser et Yamsouf d'un côté à l'autre côté? Parce que le texte il dit que quand les Juifs sont sortis, ils avaient peur que les Égyptiens ils ont sorti par l'autre côté. Et après, ils vont revenir pour les faire du mal. Donc, qu'est-ce que c'est Hachem il a fait? Ils ont vu les cadavres morts et chaque juif, il a reconnu son bourreau. Et là, il s'est calmé, ils ont vu, ça y est. Ils se sont libérés de cette peur. Ils étaient apeurés, ils étaient terrorisés. Chaque juif était terrorisé par ce goy qui l'a frappé. Quand il a vu ce goy-là mourir, il a vu mort, Chazal s'est marqué. Ils n'étaient pas encore morts. Le goy, il a encore ouvert les yeux. Il a vu les juifs. Et les juifs, il a vu, voilà le bourreau. Et là, le goy, il est mort. Comme ça dit Chazal, c'est voilà, maintenant, je suis libéré de ce bourreau. Et ça, c'était une grande joie qui a amené après Hazer Shir Moshe. Et ça, c'était possible que parce que les juifs sont sortis le même endroit, qu'ils sont rentrés le même côté. Si les juifs, ils seraient sortis l'autre côté, ils auraient pu imaginer que les Égyptiens sont sortis à derrière. Comment ils auraient vu les cadavres? Et comme c'était le même côté, donc ils ont pu voir tous ces cadavres. Tout était calculé, Minashamaim. Il y avait Esamakot, qu'Hachem il a fait à l'Hayam. C'est Esamakot aussi, correspond au Esan Nisyonot d'Abraham Avinu, etc. Esan Nisyonot, Nisu Avotenu et Amakom Baruchu Bamidbar. Donc il y avait 10 tests de nos parents avec Akadesh Baruch Hu dans le désert. Chez Neymar, comme on dit, va yinasu oti zeh esa pa'amim velo shamu bekoli. Ils m'ont testé, ça fait maintenant 10 fois, ils n'ont pas écouté ma voix. Alors ici, souvent les gens, ils saisissent pas quel est le sens de la Mishnah. On pense que Dieu, il a testé les Juifs 10 fois. Non, il n'est pas marqué dans la Mishnah que Dieu a testé les Juifs 10 fois. Cette Mishnah nous dit que les Juifs ont testé Hachem 10 fois. Eser nisyonot nisu avotenu et hamakom. Les Juifs, ils ont testé Dieu. Shenemar, vayenasu oti ze esapamim. Les Juifs, ils m'ont testé. C'est le contraire d'Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu, Dieu, il a testé Abraham. Je veux savoir si Abraham Avinu est juste ou il est injuste. Je veux savoir s'il est fidèle ou il est infidèle. Et Abraham Avinu, il a montré qu'il est fidèle. Très bien. On aurait pu croire que Dieu, dans le désert, il a dit, je veux savoir si les Juifs sont fidèles et je leur fais un test et on va voir s'ils sont fidèles. Non, ce n'est pas ça qui est marqué ici. Ici, il est marqué que les Juifs, ils ont fait un test à Hachem. Si quoi? Si lui, il est fidèle. Il voulait savoir, est-ce qu'il est costaud Hachem? Est-ce qu'il est prêt à leur aider? Est-ce qu'il est capable de leur aider? Est-ce qu'il a envie de leur aider? Est-ce qu'il est prêt à leur aider? Ça, c'est ce qu'ils ont testé Hachem. Comment ils ont testé Hachem? Comment ils ont testé? En l'énervant, en essayant d'énerver. Chaque fois quand il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi boire, on va se rébeller. Et alors, on va voir s'il s'énerve. On veut savoir si Hachem Be'emet, il est prêt à remplir notre volonté malgré qu'on l'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils veulent tester Hachem? Ils veulent savoir, ils veulent nous prendre pour son peuple. Est-ce que nous faisons une bonne affaire? Et pourquoi pas? Oui, parce que si nous sommes des tzadikim, on a vu les miracles en Égypte et nous sommes des tzadikim, alors Hachem, il sera content de nous. Mais si on ne sera pas tzadikim, il va nous punir. Il va nous punir comme les Égyptiens. Alors dans ce cas-là, peut-être ça ne vaut pas la peine de devenir le peuple de Dieu. On ne va pas le suivre. On va le suivre s'il sera gentil avec nous, même si nous, on l'énerve. Mais il sera gentil avec nous s'il en énerve. On va essayer, on va l'énerver. C'est un genre de test, comme il y a des enfants en classe. Les enfants, ils ont un nouveau prof. Il est dur ou il n'est pas dur? On va essayer le premier jour, on va faire l'idiot. Et s'il est faible, on va voir où il intervient. Il est dur, il faut se tenir. On va voir jusqu'où on peut faire l'idiot. Ça, c'est ce que les Juifs, ils ont fait. Chaque fois, on va montrer qu'on n'est pas content, pas qu'à manger. Quoi, ça fait 3 jours qu'on marche, et on ne trouve pas de l'eau, mais on n'est pas content. Non, ça ne marche pas du tout. Ça veut dire quoi, ça? Et on va voir sa réaction. Si la réaction d'Hachem, il est bon, je me suis trompé. Bon, alors, nous aussi, on se trompe. Nous aussi, on se trompait, on va retourner à la maison, on va retourner en Égypte. On va continuer cette aventure si vraiment Hachem, il est prêt de nous aider et nous fera tout ce qu'on veut. Alors, 10 fois, ils ont fait. En vérité, ils auraient dû être convaincus plus tôt. Ça, c'est le problème. Déjà à la sortie d'Égypte, ils auraient dû déjà voir qu'Hachem, il est là, il leur aide, il leur a tout fait. Mais ils avaient un manque de confiance en Hachem. Et cette manque de confiance, ils voulaient tester si Hachem vraiment il est attaché à eux. Ça, c'est, il m'a pris 10 fois les meraglim. Alors là, Hachem lui dit, maintenant c'est trop. Là, vous avez exagéré. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez dépassé la ligne rouge. Vous avez dépassé la ligne rouge. Vous pouvez raconter à vos enfants que vous avez dépassé la ligne rouge. Et voilà, sachez, ici, ça passe pas plus. Maintenant, si vous utilisez ça parmi vous, vous allez vous coller. Asara nissim na sous la voûte du Beth Amikdash. Les miracles étaient faits à nos parents dans le Beth Amikdash. Lo ipi la isha merer besara kodesh. Jamais une femme, elle a perdu son fœtus à cause de la viande kodesh. Ça veut dire quoi? La viande qui grille, et beaucoup de viande qui grille. À plus forte raison. C'est une odeur très très forte. Et la graisse qui grille, la viande qui grille. Il y avait beaucoup de femmes au Beth Amikdash aussi. Femme, elle est enceinte. Des fois, elle dit, j'ai besoin de manger. Et si elle ne mange pas, elle va faire une crise. Jamais une femme, elle a fait une crise. Jamais. Pourquoi pas? Parce que c'est Bessar Kodesh. Ça veut dire, ici, la Mishnah nous dit à merveille que les femmes juives avaient une telle sainteté qu'elles ont senti qu'il faut que je me calme. C'est comme l'histoire de Yom Kippour, il est marqué dans la Gemara, une femme enceinte, qu'elle sent une odeur d'un bon plat, et elle dit, Yom Kippour, il faut que je mange, sinon elle risque de perdre le bébé. La Gemara nous raconte, qu'est-ce qu'on fait? On lui chuchote dans l'oreille, c'est Yom Kippour aujourd'hui. C'est possible que ça calme. Ah, Yom Kippour, tu te calmes, mon fils. Où elle se calme pas. La Gemara nous raconte, il y avait une femme qui est venue chez Rabbi. J'ai besoin de manger. Rabbi lui dit, dites l'oreille, c'est qui pour. Elle se calmait. Et qui était l'enfant? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Rech Lakish, le Rabbi Yochanan était cet enfant-là. Il y avait une autre femme, elle est venue. Rabbi lui dit, chuchotez-lui dans l'oreille, qui pour. Eh ben, ça ne marchait pas. Qui était celui-là? Après, il était malhonnête dans ses affaires. Il a fait des affaires malhonnêtes. Alors, dans le ventre, déjà, si c'est de la bonne qualité, la kedusha, le feu, tu sais, les kadosh, il entend le message de Dieu, il se calme. Ici, la Mishnah nous raconte que les femmes juives sont montées au Beth Amikdash. Il y avait une immense odeur de la viande grillée, mais ça ne faisait pas de mal. C'est de la viande kadosh. Les femmes juives, elles sont des viandes kadosh, tu te calmes. Et elle se calmait. Voilà, Israël, Bessara, Kodesh, Meola, mais jamais de la viande de Kodesh, de Korban, a pourri, a tourné, a donné une mauvaise odeur. C'est un phénomène. Au Beth Amikdash, il y avait des fois des centaines, des milliers de bêtes. Et des fois, il y a 40 degrés à Yerushalayim. Alors, 40 degrés à Yerushalayim, sans congélateur, sans frigidaire, sans glace. Et il y a des kotchim qui est mangé une journée. Il y a Kotchim Kalim, qu'on peut manger dans tout Yerushalayim. Alors, des fois, tout Yerushalayim était plein de viande de Kodesh. Jamais il y avait mauvaise odeur. Et ça, c'est le Kodesh, elle pourrit pas. C'est un S. Jamais on avait vu un insecte dans le Bet Mitbachaim, dans l'abattoir qui était Bet Amikdash. Bet Amikdash, on a égorgé les bêtes, après, il faut enlever la peau. Faut ouvrir et après la saleté, l'estomac, on ouvre l'estomac, on fait sortir tout, on lave tout à l'extérieur, sur des centaines, sur des milliers de bêtes. Et on sait très bien que les mouches, elles aiment de là où il y a cette odeur. Jamais on n'a vu un zouf Beit HaMikdash. Ça veut dire que les zvouvim respectent le Yerushalayim, le Beit HaMikdash. Les zvouvim, la nature respecte. Ça montre, Hashem, il a fait un nez au peuple juif. Lui, Rekere, Léom et Gadol, Biom Kibourum, jamais est arrivé un panthère. C'est pas seulement un kéri, c'est tous les toumotes. Une touma, il y a toutes sortes de toumotes, une souris morte. Là, il peut y avoir autre chose, kéri, c'est-à-dire un événement qui fait que le Kohen Gadol, il est disqualifié. Ça n'est jamais arrivé. Et la pluie n'a jamais éteint le feu qui était sur le bois de la Maracha. Pourtant, quand il pleut fort, un feu qui est à l'extérieur, en Australie, il y avait des feux de forêt de folie, mais quand il a plu, ça a éteint. Eh bien, la pluie n'arrive pas à éteindre ce feu. Esh tamid tukatara le feu au Beit HaMikdash représente la flamme du peuple juif vers Hachem. Les juifs, ils sont chauds pour Avodat Hachem. Et les juifs, ils ont tout le temps chaud. Donc, jour et nuit, jamais. Pendant 4 siècles, ça n'est jamais éteint. Pour montrer que les juifs, ils étaient toujours attachés à Hachem. Et le vent n'a jamais fait dévier le Hamoud Hashan, la fumée qui monte. Ça veut dire autour de Mizbeach, il y a beaucoup de fumée qui monte. On brûle une vache, deux vaches, 10 vaches, 20 vaches, ça donne une immense fumée. Maintenant, quand le vent il arrive, je ne sais pas si vous étiez déjà à côté d'un feu, un grand feu, et le vent il vient, le vent il souffle, qu'est-ce qu'il arrive? Que le fumée, il va 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres à côté. Mais autour de Mizbeach, il y avait des Kohanim. Dans toute la Hazara, il y avait des centaines de Kohanim. Et souvent, le Kohen était sur le Mizbeach, évidemment. Il monte, il tourne autour du Mizbeach. Il y a 4 coins. Il y a des choses qu'il faut faire dans les différents coins. Et il marche en haut du Mizbeach. Imaginez-nous une bourrasque de vent, il vient. Elle souffle le fumée. Eh bien, on s'étouffe. On est en plein fumée, on ne peut plus respirer. Ou on peut tomber. Le Mizbeach était dit à haute hauteur, 5 mètres hauteur. Il était au bord, il peut tomber par terre s'il ne peut pas respirer. Et une bourrasque de vent à côté d'un immense feu, c'est dangereux. On demande des pompiers, les pompiers ils s'éloignent d'un feu. Et pas seulement du feu, du fumée. Le fumée, on dit, ça tue encore plus que le feu. Alors qu'est-ce qu'ils ont des masques? Comment ils marchent les pompiers? Ils ont des masques, des fois ils ont des masques à gaz qu'ils doivent rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça dans le fumée. Le fumée, c'est archi dangereux. Et bien, au Beit HaMikdash, avec tous les centaines de Kohanim ou milliers et tous les Juifs là-bas, jamais est arrivé. Le fumée montait tout droit. Le vent, il arrive, il s'arrête devant le fumée. C'est un phénomène. Jamais on ne trouvait que le Homer, le Korban Homer qu'on fait le 2e jour de Pessah, et jeter à l'Echem les 2 pains qu'on fait Shavuot, l'Echem est devenu Passoul. Si ça n'est nul pas soul, par exemple le tamé ou une autre chose que ça rate. Le jeté alechem, si on rate le jeté alechem, il fallait le cuire la veille de Shavuot, ça repousse pas Yom Tov, il faut préparer Erev Yom Tov, et si c'est devenu pas soul, devenu tamé ou une autre chose, on peut plus faire, pendant Yom Tov, on n'a plus le droit de fabriquer le jeté alechem. Dans ce cas-là, la conséquence est que pendant toute une année, on n'a plus le droit de faire un korban avec la nouvelle récolte. Il faut toujours prendre la récolte de l'ancienne année. Étant donné que c'est le korban du Shtei Alechem qui permet à ce que les Juifs utilisent la nouvelle farine pour amener un korban au Beit HaMikdash. Tous les menachot, tous les korbanot où il y a de la farine, pendant toute l'année, à partir de Shavuot, on prend la nouvelle récolte, à condition qu'on a fait le Shtei Alechem. On a raté faire le Shtei Alechem. Pour n'importe quelle raison, on utilise l'ancienne farine. C'est une grande galère. Et le Homer, tous les Juifs, ils ont commencé à manger la nouvelle récolte à partir de midi. À midi, au 1er, 2e jour de Pessah, dans tous les clans d'Israël, on mange la nouvelle récolte. Parce que c'est sûr et certain que les Kohanim ne vont pas retarder le Homer plus que midi. Mais s'il y a un pancher, Et il faut le couper la nuit. On ne peut pas le couper avant Pessah. Il faut le couper la nuit du 16 Nissan. Une fois on a coupé, et on ne coupe pas plus que pile la mesure. Après, il faut moudre. Après, il faut griller. D'abord, griller et moudre. Et si pour une raison ou une autre, quelque chose tourne par an, on ne fait pas le homer. On ne fait pas le homer. Tous les juifs qui vont manger le 16e jour de Pessah après-midi, la nouvelle récolte, ils vont tous transgresser la Avera Minatora. Hachem, il a fait que ce n'est pas devenu pasoul. Et le Panim, on le cuit vendredi. Shabbat, on le met sur le Shulchan. Et ça reste une semaine. Et s'il y a un psoul, il faut les enlever. C'est nul, tamé, il faut l'enlever. Et pendant une semaine, il n'y a pas le Lechem HaPanim, mais le Lechem HaPanim, le Lechem HaPanim, le Fanaï Tamid. Il faut que tout le temps, le Lechem HaPanim, il est sur la table. Soit le Pshat, il est, c'est ça qui donne la bracha, ou des choses, l'Inyanim HaMukim. Il faut que le Lechem HaPanim, il sera tout le temps sur la table. C'est archi dommage, et une honte qu'il n'y aura pas de Lechem HaPanim sur le Shulchan. Les Juifs au Beth Amikdash, parfois, ils étaient debout, tsefoufim, serrés, collés, comme des sardines. Le mot tsefoufim vient du mot tsaf. Tsaf veut dire flotter. C'est-à-dire quoi flotter? Quand les gens ils sont pressés, ils sont à la métro tellement pressés, des fois, on n'a plus les pieds par terre. Un sur deux, son corps, il se lève. Tellement pressé, pressé, on se lève comme des sardines dans la petite boîte. Après, le Kohen Gadol, il se prosterne et il dit le Shema Mefourash, Ifne Shem Titaru, Akonim Baham, Ayubazara, Kshayushomim et Shema Gadol, Yotse Mipi Kohen Gadol, Hayu Korim, Umishtachavim, Umodim, Veomrim, Baruch Shem, Kvod Machutul Olamvet. Donc, quand on entendait le nom d'Hachem, on se prosternait. Et pour se prosterner, il faut de la place. Combien de la place? Étalée. Hishtachavaya, ça veut dire s'étaler entièrement. Korim, une kriya, c'est de mettre le genou par terre. Kida veut dire le genou par terre et la tête par terre, le front par terre. Ça, c'est Kida, va Hishtachavaya, ça veut dire étaler entièrement. Donc, pour étaler entièrement, il faut 2 mètres. Chaque juif, il a besoin de 2 mètres. Et encore les mains plus loin, ça fait 2,20 m. Pour 2,20 m. Et la Gemara nous dit que tous les Juifs Yom Kippour ou les Yamim Tovim, quand c'était bourré, tout le monde il avait la possibilité de se prosterner. Et ils avaient de la place de se prosterner. Comment c'est possible? C'est impossible. Quand tu as 100 000 personnes dans une place avec des murs, entourées par des murs, et avec les 100 000 personnes qui sont dedans, ils sont bourrés comme des sardines. Le seul moyen, c'est il faut ouvrir la porte, il faut qu'une partie sorte. Sinon, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se prosterner. Et on a pu se prosterner. Quel est le pshat? Ça veut dire que quand le Kohen Gadol, il dit le Shema Mefourash, il y a une ambiance qui fait qu'il y a d'autres dimensions. Les dimensions gashmi, elles disparaissent. Il y a au Beth Amikdash un phénomène, une nature dans une autre nature. Il y a les règles de la nature qui régissent les comportements et les dimensions dans ce monde. Dans ce monde, il y a des dimensions. 10 personnes dans 1 mètre carré, voilà, c'est ça que ça donne. Il est impossible pour 10 personnes dans 1 mètre carré que chacun il se prosterne, il a 2 mètres pour lui. Si 10 personnes, chacun a 2 mètres, ils font 20 mètres carrés. Ça ne marche pas dans 1 mètre carré. Oui, mais il y a une autre dimension. Il y a une autre chose, il y a quelque chose de céleste. Et ça, c'est quelque chose que les Juifs, ils le voyaient chaque Kippour, ils le voyaient chaque Yom Tov. Omdim Tsefufim, Umishtachavim Ravachim, il existe un phénomène, c'est le Maala Minateva qui existait ici. On dit un Tshuva de Chetam Sofer qui dit que il a vu une fois. Il a dit qu'il a vu une fois, mais il peut pas l'écrire, il peut pas le détailler parce que des miracles, on ne dévoile pas. Mais oralement, on sait comme ça, la tradition, il dit que tous les rabbanim d'Hongrie, qu'ils ont reçu de leurs parents, que le Chatam Sofer faisait allusion à un événement qui était à Presbourg, il était Bratislava, en Tchéquie, il y a une ville qui s'appelle Bratislava, et s'appelait Presbourg à l'époque, Il y avait Beth Amidrash et on avait des photos après de ce Beth Amidrash du Khatam Sofer. C'était un Beth Amidrash, moi je ne me rappelle pas combien, il me semble d'avoir vu aussi une photo. Ils étaient là-bas, 400 personnes qu'ils ont étudiées. 400 les Talmidim du Khatam Sofer. Alpider Khateva, c'est impossible. On mesure, ce n'est pas possible. Ils ont tous étudié là-bas. Khatam Sofer, il dit, il y a chez nous quelque chose, mais je ne peux pas le dire. C'est l'union de Om Zim Soufim Velo Hizik, le Maasé, cette histoire d'Om Zim Mouchtachavim Rebachim, ce n'est pas seulement Kippour. Il y a encore un jour qui avait probablement plus. C'est la veille de Pessah. Quand on fait le Korban Pessah. Alors, combien des Juifs ils étaient au Beth Amikdash? Il est marqué dans la Gemara qu'Agrippa Samelech, avant le Korban du Beth Amikdash, et voulait savoir, mais combien des Juifs étaient à Yerushalayim pour festoyer le Pessah? Il a dit au Kohanim, vous allez compter les Korbanot. Comment vous allez compter les Korbanot? Chaque Korban, chaque mouton, on fait sortir les deux reins. On fait les reins et la graisse des reins. On le fait sortir, on l'amène chez le Kohen et le Kohen le met sur le Mizbeach. Donc il a dit à tous les Kohanim, il y avait autour du Mizbeach les Kohanim, vous amenez cette graisse sur, en haut et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez compter, comptabiliser. Ils ont comptabilisé 300 paires, ça veut dire 600 000 reins, ça veut dire 300 doubles. Donc il y avait 300 000 moutons. On a fait la shrita du Korban Pessah. Donc, 300 000 moutons, et on faisait la shrita du Korban Pessah en trois fois. La première groupe, ils ont terminé, ils sortaient. La deuxième groupe et la troisième groupe. Alors, moyennement, ça fait 100 000 moutons la première fois, 100 000 moutons la deuxième fois, 100 000 moutons la troisième fois. La masse n'était pas comme ça. La première fois, il y avait beaucoup plus que la troisième fois. Vous imaginez, la première groupe, il y avait 130 000, et après, il y avait 100 000, et après, 70 000. Bon. Mais disons 100 000. S'il y a 100 000 moutons, chaque mouton, il y avait un membre de la groupe qui l'accompagnait. Donc, il y avait, la Gemara nous dit, minimum 20 personnes sur chaque corban. Donc, il y avait, donc s'il y avait 300 000 moutons, minimum 20 personnes. Donc, il y avait 6 millions de Juifs qui mangeaient le corban Pessah. À part des vieux qui ne peuvent pas manger, des non-témis, etc. Il y avait 6 millions de Juifs. Maintenant, 300 000 moutons. Ils étaient enfermés et les portes de l'Azara étaient fermées, dit la Mishnah. La porte, elle se fermait tout seule d'ailleurs. Et une fois qu'il y avait assez de monde dedans. Donc, 300 000 moutons plus 300 000 personnes. Il faut combien de places? Le Stade de France. On peut faire entrer dedans 300 000 hommes et avec 300 000 moutons, je sais pas, il faut calculer. Mais la Azara n'était pas le Stade de France, là, elle était beaucoup plus petite. La longueur, la largeur, il y avait 187 amot sur 187 amot, et de ça, il faut enlever encore beaucoup parce qu'il faut enlever les Heichal et la Kodesh Kodashim et encore des autres chambres, les Lishkata Sanhedrin, une partie. Alors, on calcule combien ça reste. Il y avait 300 000 moutons, il y avait 300 000 personnes en plus. On faisait la shrita. Pour faire la shrita, il faut avoir un peu de la place. Il faut bouger la main avec le couteau. Enfin, la shrita. Après, il faut de la place pour dépecer et pour enlever les entrailles et pour laver. Et après, on donne la graisse au Kohen qui l'amène au Mizbeach. C'était organisé, très beau, comme dit la Mishnah, de l'or, de l'argent, etc. Et tout ça dans une petite place, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça a existé. Et chaque Erev Pessah, ça a été la même histoire. Pas toujours, il y avait 600, 300 000 moutons. Pas obligé. Mais Agrippa, s'il a compté, il y avait 300 000. Comptez bien. Ça veut dire, c'est un merveille de merveille. Si on va filmer ça, je ne sais pas, quand il y aura le troisième Beth Amikdash, si on va filmer la scène, peut-être. Est-ce qu'on, comme on va voir un film dans un film. On va voir de près, 1 mètre carré, 10 personnes, et il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est le Beth Amikdash, c'est un état dans l'état. C'est un monde dans un monde. C'est un monde céleste dans le monde terrestre. C'est un Gilui Shrina. Ça, c'est Aseranissim. Om Tim Tsefufim Om Mishtachavim Revachim. Et jamais un serpent ou un scorpion, ils ont fait un dégât à Yerushalayim. Ça, c'est aussi un phénomène. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il y a moins de serpents, scorpions, mais autrefois, on va dans toutes les chasses. Il y avait beaucoup de serpents et de scorpions. Encore aujourd'hui, il y a des pays où il y a beaucoup de serpents et de scorpions. L'Indonésie, où il y a... À l'époque de Beit Hamikdash, il y avait des nachash, des akraves, scorpions. Et à Yerushalayim, jamais le serpent et le scorpion, ils ont mordu. Soit qu'il n'y avait pas des serpents, scorpions. Ils avaient peur de rentrer. À Yerushalayim, ils ne rentrent pas. Les serpents ont heureux et disent, ah non, c'est la ville de Dieu. Non, 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 moi... J'étais au Gan Eden, j'ai fait une bêtise avec Adam Arishon, moi j'ai pas accès ici. Et ils ont compris tout seuls. Soit qu'ils sont rentrés, mais ils ont jamais piqué. Ici on pique pas. C'est la ville de Dieu. Les animaux les plus méchants, les sans pitié, un serpent, un scorpion, et on le dit encore plus, c'est à côté de Omdim Tzfufim Mishtachevim Ravachim. Il y avait beaucoup de monde. On sait que c'est les serpents. Quand on les énerve, ils piquent. Quand un serpent il est loin, il c'est pas très dangereux. On peut voir un serpent de loin et pas forcément il est obligé de mordre. Mais si tu te colles à lui, si tu veux lui marcher dessus, alors là il se défend. Donc Omdim Tzfufim, il y a des millions de gens à Yerushalayim. Eh ben les serpents, ils peuvent se sentir agressés. Eh ben on va mordre quelqu'un. Jamais, jamais un serpent, un scorpion, ils ont mordu. Parce que les animaux, ils sont la kedusha. Lomar Adam, la chavero tzar li amakom shalim birushalayim. Alors ça, c'est le top du top. Jamais un homme, il disait à son copain, tzar li hamakom, il est trop étroit pour moi la place shalim pour passer la nuit à Yerushalayim. Comment était Yerushalayim? Mais quelle grandeur avait Yerushalayim? C'est pas l'Yerushalayim d'aujourd'hui. Yerushalayim de l'époque, il était petit. C'était petit. Avant, je disais encore en Pessah, il y avait au moins 6 millions de gens qui mangeaient le corps en Pessah. C'est-à-dire la masse, ça veut dire 7 millions de gens. Pour placer 7, 8 millions de gens pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, Pessah, un Yom Tov, et si un Shabbat en plus, bon, pas tout le monde y reste 7 jours, mais au moins Yom Tov, on reste. Et on arrive à Erev Pessah, minimum Erev Pessah, on doit rester Yom Tov. Après, on parle que le lendemain. Et si un Shabbat, il faut rester encore un jour de plus. 6 millions, 7 millions de gens dans un petit endroit. Alors, peut-être c'est supportable, mais au moins, on se sent mal. On se sent pas à l'aise. Une famille arrive avec 13 enfants. Ils s'installent à Yerushalayim. Il y a deux pièces. Il y a ici un couple de gens. Ils ont deux pièces. Notre deux pièces. Ils arrivent dans tout Eretz Israël. C'était pas arrangé comme des hôtels et machin. Il y avait des gens qui habitaient Yerushalayim. Mais eux, ils ont invité les Juifs. Venez manger chez moi. Venez habiter chez moi. Donc, le type, il a deux pièces. Il a 7 personnes dans sa maison. Il arrive encore 30, encore 50 personnes. Il y a de la place pour tout le monde. Et le lendemain matin, où t'as dormi? Ou bien, t'avais de la place? Oui. Ah non, j'étais pas du tout angoissé. C'est un phénomène. Jamais un juif, il a dit, c'est être pour moi la place Yalim Yerushalayim pour passer Yerushalayim. Il y a ici un phénomène de Beit Hamikdash, la Kedusha, elle crée des dimensions que nous n'avons pas l'habitude de voir en dehors du Beit Hamikdash. Et ici, ce n'est pas seulement Beit Hamikdash, c'est Yerushalayim. Il dit, Loïzik Nachash Vakrab Yerushalayim. Aussi, il n'y avait jamais un serpent qui mordait et jamais il y avait un manque de place dans tout Yerushalayim. Du Beit Hamikdash a rayonné dans tout Yerushalayim. Et Me'olam, jamais, depuis la construction du Beit Hamikdash jusqu'à la destruction du Beit Hamikdash, malgré qu'il y avait des moments où les Juifs, peut-être, ils n'étaient pas si tzadikim. On nous raconte à l'époque du premier Beit Hamikdash. On nous raconte à l'époque du deuxième Beit Hamikdash, il y avait des gens pas bien, etc. Malgré tous les balaganes que des fois il y avait, mais des fois il y avait des guerres civiles chez les Juifs. Mais le Beit Hamikdash, c'est autre chose. Même des Juifs pas très religieux, mais le Beit Hamikdash, c'est le Beit Hamikdash. C'est un phénomène aujourd'hui, On dit toujours, on attend Mashiach, il va venir le Beth Amikdash. Et ça va me donner quoi, le Beth Amikdash? Eh bien, on va prendre des vaches, on va les égorger en mettant le sang sur le Mizbéach. Tu racontes ça à un juif, il va dire, c'est pour ça qu'on a besoin du Messie. Quoi? Le Messie, il est là pour qu'on mette deux pigeons sur le corne du Mizbéach. Il ne comprend pas très bien. C'est que les juifs, ils sont en exil, ils passent tout, ils attendent, il y a une maison à la fin. Dans ces maisons, on va apporter le korbanot. C'est qu'ils n'ont rien pigé, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit de Beth Amikdash, c'est un monde dans un monde de Gilui Shrina. Avec les yeux, on a pu voir des merveilles de merveilles, malgré qu'ils n'étaient pas tous tzadikim. À plus forte raison, quand on arrivera à la troisième Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y aura comme lumière qui va sortir du Beth Amikdash?